C'est au son de cette même musique, l'Alegría de Xochiquetzal, que nous avions terminé la cassette sur la littérature nahuatl. Voici un nouveau thème, je l'ai intitulé Aztlán, terre des Aztèques, image d'un nouveau monde. Oui, car les premiers mythes, les premiers dieux que nous avons étudiés se sont arrêtés à Teotihuacan lors de la création du soleil. Et bien maintenant, nous allons faire un peu d'histoire, aller d'abord découvrir Tula et ensuite fonder Mexico Tenochtitlan tout en parlant d'Aztlán, ce départ de la légende aztèque. Mais qui sont véritablement ces Aztèques ? On sait que ses origines sont imprécises, qu'elles sont mystérieuses. La légende elle-même est très contradictoire, elle est même confuse. On dit toujours qu'ils viennent d'Aztlán, l'île de Blancheur, d'où ils tirent leur nom. Bon, c'est vrai qu'Azteca signifie les gens d'Aztlán. C'est sous ce nom qu'ils se désignent durant toute leur longue pérégrination. Mais après, au moment de la sédentarisation, au moment où ils arrivent à Mexico, ils vont changer de nom. Ils vont prendre le nom de Mexica, ceux de Mexico. Alors, bien sûr, comme toute origine a été perdue, Aztlán, eh bien, c'est une sorte d'utopie, un lieu qui n'est pas vraiment localisé, si ce n'est dans la mémoire de cette tribu. On connaît leur chemin, ce chemin qui a passé par les plaines du Nord, mais qui va s'effacer au-delà, dans les poussières de la mémoire, justement. Les Aztèques parlent le Nahuatl, cet idiome de la famille Uto-Aztèque. Ils appartiennent à toutes ces tribus que l'on appelle les Nahuas, qui ont été dispersés jusqu'au 8e siècle sur tout le territoire du sud-ouest américain, au nord du Mexique aussi. Mais alors de l'an 900 jusqu'à l'an 1300, par vagues successives, ces Nahuas vont déferler sur le plateau central. Alors les premiers envahisseurs seront naturellement les Toltecs qui vont s'installer à Tula au début du 10e siècle. Et les derniers arrivants, ce sont précisément les Aztèques. Ils étaient déjà parvenus dans cette vallée de Mexico à la fin du XIIIe siècle. Ils vont rechercher un territoire, ils vont survivre en s'engageant comme mercenaires au service des grandes dynasties locales qui étaient bien établies. Mais cette tribu, en fait, elle aspire véritablement à se sédentariser. Et ça, c'est leur problème. Ils ont toujours été des nomades jusque-là. Mais, bien sûr, il n'y a pas assez de terres cultivables, ils ne trouvent absolument rien qui ne soit occupé dans cette vallée, et c'est la raison pour laquelle ils vont devoir s'établir au centre de la lagune de Texcoco, sur cette petite île boueuse qui était cernée de joncs, de roseaux, et c'est là qu'ils vont fonder en 1325, ou alors en 1345, selon les chroniques. Enfin, maintenant, on s'est beaucoup plus arrêté sur cette date de 1325, ils vont fonder Mexico Tenochtitlan. L'apprentissage est assez long. Cette façon de se sédentariser n'est pas évidente, bien sûr. Ils ont des conditions particulièrement difficiles qui vont durer plus d'un siècle. C'est seulement en 1428 qu'on va avoir un tournant dans l'histoire des Mexicas. Ils vont réussir à abattre le pouvoir de cette cité, cette tyrannie d'Azcapotzalco, et Tenochtitlan va devenir enfin le nouveau pôle de la puissance de cette vallée de Mexico. Bien sûr, ce qui nous surprend ensuite, c'est ce mouvement d'expansion fabuleux qui a commencé en 1428. Les Aztèques vont prendre la tête d'un véritable empire. À l'arrivée des Espagnols, ils touchaient déjà les deux océans. Ils allaient jusqu'au Rio Panuco, pour ce qui était du nord. Ils allaient jusqu'au Xonocuosco, dans le sud. Mais en 1521, ce qui est encore plus incroyable, c'est de penser que cette superbe capitale, qui surgit des eaux en moins de deux siècles, va être détruite. Elle ne sera plus qu'un monceau de ruines fumantes lorsque les conquérants auront réussi à abattre cet empire. Si j'ai indiqué quelques repères chronologiques, c'était pour remettre en relief l'importance de ces mythes, de ces sagas que nous avons commencé d'étudier sur l'autre cassette. Et bien maintenant, nous allons continuer cette recherche.
Soy danzante por amor, a mi Dios y a mi Dios. Soy danzante.
allons continuer à nous intéresser un peu à ces textes mythologiques, car je crois qu'ils expliquent beaucoup de choses sur cette civilisation précolombienne, sur ces Aztèques, mais curieusement, certaines de ces annales, certaines de ces sagas remontent beaucoup plus loin, pratiquement jusqu'à l'époque toltèque. Et oui, on s'est transmis toute cette mythologie toltèque sur pratiquement 5 siècles. Alors, la geste de Quetzalcoatl, c'est peut-être la plus intéressante de toutes. Elle raconte l'histoire de cet homme-dieu qui serait né au 10e siècle, celui qu'on appelait Sehakatl-Topiltzin-Quetzalcoatl, c'est son nom complet, ce qui veut dire un roseau, jeune prince Quetzalcoatl. C'est le prêtre, ce prêtre civilisateur de cette mythologie toltèque, ce roi légendaire né à Tula et qui aurait été chassé par le dieu sorcier Tezcatlipoca, ce dieu de la grande ourse, ce dieu du vent nocturne. Et ce Quetzalcoatl, eh bien, il deviendra, après son sacrifice sur le rivage de l'Atlantique, cette étoile du matin, cette planète Vénus, annonciatrice de son retour, mais aussi de la rédemption, l'exemple le plus précis de la rédemption américaine. L'épopée mythologique de Quetzalcoatl, ce serpent à plumes de Quetzal, a vraiment rempli tout l'horizon culturel nahuatl, et je crois que c'est peut-être le Melawikicuatl le plus intéressant que l'on puisse retrouver dans ces anciennes annales. En mi mano portaré y el escudo llevaré como insignia de grandeza. En mi danza pelearé como insignia de grandeza. Que en mi danza pelearé. À l'époque où naissait Quetzalcoatl, pendant 4 jours, il fit frémir sa mère. Et il était à peine né que la mère mourut. Et l'enfant, Sehakatl, un roseau, fut élevé par la déesse des légumes, la déesse par féminine, Kilwatsi Siuquatl. Quand il eut atteint un âge moyen, son père l'emmena conquérir. Et l'endroit où il s'exerça la guerre a pour nom là où sont ceux qui ont des turquoises, Siuwakan. Là, il fit des captifs. Mais là, ses oncles, les 400 serpents de nuages, tuèrent son père, qu'ils avaient détesté. Et après l'avoir tué, ils l'enterrèrent dans le sable, et le jeune Sehakatl est parti à la recherche de son père. Il va répétant partout « Où est donc mon père ?» Et le vautour lui répond « Ton père a été tué, il gît là-bas, là-bas au loin, ils l'ont enterré. » Alors il partit le recueillir, et il vint le déposer dans son temple au mont de Mixcoatl. Les oncles qu'il avait tués sont Apenacatl, Tzoltan, Quilton, l'habitant du rivage, petite caille, petit captif. Ces trois-là se disaient « Comment va-t-il percer son temple ?» Il se croit donc lapin, il se croit donc serpent. Nous nous fâcherons, heureusement qu'il y a un jaguar, un aigle, un ours. Voilà ce qu'ils lui dirent. Sehakatl répondit « C'est bien, qu'il en soit donc ainsi. » Alors, il fit appel au jaguar, à l'aigle et à l'ours. Il leur dit ainsi « Venez ici, mes oncles. On dit qu'avec vous, je dois percer mon temple, et certes, vous n'allez pas mourir. Auparavant, vous devrez manger du monde. Celui-là même avec qui je vais percer mon temple. Ce monde, ce sont mes oncles. » Et sans la moindre difficulté, ceux-ci furent ligotés avec des cordes autour du cou. Tout de suite, Sehakatl convoque les taupes et leur dit « Venez ici, mes oncles, nous allons percer notre temple. » Immédiatement, les taupes ont creusé, perçant le temple, et par le trou est entré Sehakatl et il est ressorti sur le sommet du temple. Et alors, ses oncles, les frères de son père, ont dit « Nous sommes ceux qui allons nourrir les bâtons qui allument le feu. » Quand ils les ont vus, le jaguar, l'aigle et l'ours se sont grandement réjouis. Il y a eu là bien des pleurs. Quand ils ont repris leurs esprits, Sehakatl dispose déjà les bâtons du feu. Ses oncles arrivent, emplis de colère. Au premier rang vient Abenaketl. Il est vite monté au sommet. À l'instant, ce Aketl lui fait face et lui brise la tête avec un miroir sphérique. Avec quoi, il roula vite jusqu'au pied de la montagne. Le voici qui allait saisir Zoltan et Quilton, et les fauves ont commencé de hurler. Immédiatement, il les sacrifie tous deux, il se met à tirer du piment, il leur en frotte un peu le corps, et ensuite, il leur en fait des incisions. Quand il les a torturés, c'est quand il leur ouvre la poitrine. Le texte suivant s'intitule « L'âge d'or à Tula ». On disait, on racontait que quand il gouvernait au temps du premier Quetzalcoatl, celui que l'on nommait Seacatl, qu'alors il ne voulut jamais de sacrifice humain. Mais ensuite, quand Huemac gouverna, tout cela commença et devint habitude. Ce sont les sorciers qui l'ont commencé. Ça, c'était tiré des annales de Kuauhtitlan, tandis qu'auparavant on était dans ce fameux codex aussi de Kuauhtitlan qui racontait la légende des soleils. Et nous avons maintenant la suite de cet âge d'or à Tula. Avec Quetzalcoatl commencèrent tous les arts, tout ce qui est technique. Ces maisons étaient dressées, l'une était d'émeraude, l'autre était d'or, l'autre en coquillage rouge et une autre en nacre. Il y avait une maison aux panneaux de turquoise et une autre en plumes de Quetzal. Là-bas, tout était richesse. Fin et riche ce que l'on mangeait, toutes sortes de nourritures. On dit que les calebasses étaient immensément grosses, telles que leur tour était de 4 brasses. Certaines étaient de forme ronde. Et les épis de maïs longs, comme le manche du métaté, très longs, et il fallait les mesurer avec les bras. Et les pousses de blettes étaient hautes comme des palmes, mais poussaient encore. Et là vivaient aussi toutes sortes d'oiseaux, beaux plumages, des bluets, des quetzals, des oiseaux noirs et jaunes, des oiseaux rouges précieux, au long cou. De même, toutes sortes d'oiseaux qui ont de belles trilles, ceux qui ont un chant si paisible. Et toute espèce de pierres fines, d'émeraudes, l'or n'était point compté, tant il y en avait. En ce qui concerne le cacao, il y en avait du plus fin et en abondance. Partout poussaient les plants de cacao. Jamais les habitants de Tula n'ont connu le besoin. Ils étaient toujours heureux et prospères. Rien ne manquait chez eux. Ces petits épis qui restaient atrophiés et qui ne poussaient pas ne servaient qu'à chauffer leur bain. Ça s'est tiré d'un ouvrage de Sahagún et ça se trouve au Palais Royal de Madrid aujourd'hui. Alors en troisième position, maintenant on va étudier le guet-apens de Tezcatlipoca et l'ivresse coupable de Quetzalcoatl.
La historia me gana donde pudo suceder después de soberana y sentimientos de mujer. Oh Marinali, oh Malinche, tú fuiste fiel a tu Dios en su teocali y ante el mandato de
Alors les sorciers sont venus là où se lavent les oignons Shonakapakoyan et sont venus habiter chez un laboureur qui a nom Maxtla. C'était le gardien de la colline des Toltecs. Alors ils ont cuisiné des légumes, des tomates, des piments, de tendres épis de maïs et de tendres gousses de haricots. Pendant quelques jours, ils ne firent que cela. Et comme il y avait là des agaves, ils en demandèrent à Maxtla. Et pendant 4 jours, ils préparèrent le vin d'agave. Et peu à peu, le raffinèrent. Ils avaient découvert eux-mêmes de petits pots de miel sauvage, et ils le mélangèrent au vin. Les voici qui partent pour la demeure de Quetzalcoatl, la Tula. Ils emmènent tout ce qu'ils ont préparé, leurs légumes et leurs piments et tout le reste. Ils emmenèrent aussi le vin. Ils sont arrivés, ils ont essayé de parler au roi, mais la garde de Quetzalcoatl n'y a point consenti. Ils ne les laissaient pas passer. 2 et 3 fois, ils les ont repoussés. Cela ne leur était point permis. Enfin, on leur demanda où habitaient-ils. Ils répondent et disent là-bas, sur la colline des prêtres, là-bas, sur le plateau des Toltecs. Quetzalcoatl entendit cela et dit enfin qu'ils entrent. Ils entrèrent, le saluèrent et lui offrirent les légumes. Quand il les eut mangés, alors ils l'ont prié, ils lui offèrent le vin d'agave. Il dit, certes non, je ne boirai pas cela, je suis homme d'abstinence. Cela est peut-être enivrant, cela est peut-être mortel. Ils dirent, goûte-y au moins avec le doigt, il est bon, il est récent. Quetzalcoatl le goûta avec le doigt. Il aima et dit, « Je vais boire, grand-père, je vais boire jusqu'à 3 fois. » Et les sorciers lui dirent, « Tu en boiras même 4. » Et ils lui en donnèrent 5. Ensuite, ils dirent au roi, « C'est ton offrande au Dieu. » Et quand il eut bu, alors ils en offrirent à ses vassaux, à chacun 5 mesures. Et ils les burent et tous trouvèrent l'ivresse. Et ensuite, les sorciers ont dit à Quetzalcoatl, « Prince, chante, s'il te plaît. » Voici le chant que tu dois entonner. Et le sorcier Ouimekatl lui soufflait le chant. Voici ma maison de plumes, voici ma maison aux plumes de quetzal vert, cette maison de plumes noires et jaunes, plumes dorées de pluvier, cette maison de nacre rouge, il me faut la quitter, aïe, aïe, aïe. Et quand il fut envahi par une grande joie, il dit, amenez-moi la natte précieuse, Quetzalapetatl, ma sœur. Près d'elle, nous allons continuer à boire jusqu'à l'ivresse. Ses valets sont partis au mont Nualco, où elle était consacrée au culte de son dieu, et lui ont dit, « Princesse, noble dame, natte précieuse, pénitente, nous sommes venus t'emmener. Le prêtre Quetzalcoatl t'appelle. Près de lui, tu dois être. » Elle dit, « C'est bien, vénérable page, allons. » Et quand elle fut arrivée, elle prit place près de Quetzalcoatl. Alors, ils lui ont donné 4 mesures, et plus encore, la 5e de ce vin. Telle était la libation. Et c'est ainsi qu'ils les ont enivrés. Et les voici qui chantent à la sœur de Quetzalcoatl, Iwomekatl et le Toltec. Ma sœur, où es-tu, toi, la natte précieuse? Allons boire, aïe, aïe, aïe. Et quand ils eurent bu, ils ne dirent plus rien. Nous sommes gens d'abstinence. Ils ne sont plus jamais descendus pour le bain rituel dans la rivière. Ils ne se sont plus percés d'épines, ils n'ont plus rien fait quand l'aurore pointe. Et quand le nouveau jour fut levé, ils se sentaient pleins d'amertume. Leur cœur était amer. Quetzalcoatl disait alors, « Malheureux que je suis !» Écrasé de tristesse, au-dedans de lui-même, il fit ce chant et le dit en partant. « Qu'on ne tienne plus compte de mon sort chez moi, je dois en rester là. Et comment là? Là, oui. » Même si je chante, même si mon corps a été fait de terre, soucis et douleurs, voici mon héritage. Jamais plus, jamais, je ne retrouverai la vie. Et il chanta aussi cet autre chant. Ici me nourrissait ma mère, celle qui a la jupe en serpent. J'étais son fils, mais maintenant je ne fais que pleurer. Et quand il eut terminé son chant, ses vassaux, eux aussi emplis de tristesse, tous unis, se mirent à chanter ce chant. Il nous avait enrichis dans une douce prospérité. Il était notre roi, le grand Quetzalcoatl. Vos émeraudes brillent, le bois rouge est brisé, et nous voici en pleurs. Et quand les vassaux eurent fini leur chant, Quetzalcoatl leur dit, « Grand-père, mes serfs, je vais quitter la ville, je vais entreprendre ma route. Donnez des ordres pour qu'une boîte en pierre me soit taillée. » Et en toute diligence, ils firent une boîte en pierre. Quand elle fut faite, ils y ont couché Quetzalcoatl, et il passa 4 jours dans ce coffre de pierre. Il reprit sa santé et se leva le 4e jour. Il dit alors, « Mes grands-pères, mes serviteurs, partons. Fermez tout. Cachez tout ce que nous avions découvert. C'était la richesse, la joie, c'était notre bien et notre trésor. » À la fuite de Quetzalcoatl. Voici maintenant qu'il part, Quetzalcoatl. Il se mit debout et il convoqua tous ses serviteurs. Il se mit à pleurer pour eux. Ils se sont mis en marche. Ils vont connaître le pays du rouge et du noir, Tlian, Tlapalan, l'endroit où l'on brûle. Et il dirigeait son regard de tous côtés. Il cherchait à se retenir, mais il ne trouvait nulle part de quoi réjouir ses yeux. Alors il pose les yeux sur Tula. Et à l'instant, il se met à pleurer. Il pleure à gros sanglots. 2 torrents de grêle dévalent ses pleurs qui glissent sur son visage, ses pleurs qui, goutte à goutte, viennent percer la pierre. Ensuite, nous allons reprendre un texte qui se trouve dans notre colloque à la page 260, celui du sacrifice de Quetzalcoatl. Et l'on raconte qu'en l'an un roseau, il parvint au rivage de la mer, au bord du grand océan lumineux. Et là, il s'arrêta et se mit à pleurer. Il prit ses ornements lentement, il les revêtit, sa parure en plume de quetzal et son masque de turquoise. Et après s'être paré, il mit le feu lui-même à ses vêtements et s'embrasa dans les flammes. Voici pourquoi on nomme le bûcher là où Quetzalcoatl s'est brûlé. Et il est notoire que lorsqu'il brûla et que ses cendres s'élevèrent, vinrent le voir, vinrent le contempler, tous les oiseaux au beau plumage qui vont et volent dans les airs, l'ara aux plumes rouges, le bluet, le tour si fin, le brillant oiseau blanc, et les perroquets, les perruches, ceux qui ont le plumage jaune, et tous les oiseaux raffinés. Et quand cessèrent de brûler ses cendres, le cœur de Quetzalcoatl s'éleva dans les hauteurs. On le vit, et selon les témoins, il fut emmené au ciel, et il y entra. Les vieux disent qu'il est devenu l'étoile du matin, celle qui paraît avec l'aurore. Elle vint alors, elle apparut alors, lorsque mourut Quetzalcoatl. Voilà pourquoi il a pris le nom de maître de l'aurore. Et l'on raconte encore que lorsqu'il mourut pendant 4 jours, on ne le vit pas, parce qu'il était descendu vivre au royaume des morts. Et pendant ce temps, là-bas, il avait acquis des flèches, et 8 jours plus tard, il revint briller comme une grande étoile. Et il est notoire que ce fut alors qu'il commença de régner. nous avons terminé de raconter cette épopée de Quetzalcoatl, cette très belle histoire qui se termine par cette apparition de la planète Vénus. Eh bien, on va revenir un peu aux Aztèques maintenant, et plus exactement étudier leurs origines, ce qu'on appelle la longue marche des Aztèques. Eux n'étaient pas partis de tout là, ils sont partis de la légendaire Aztlan, cet endroit que l'on situe aujourd'hui dans le sud-ouest des États-Unis. Et cette tribu Mexica va errer pendant plus d'un siècle, il ne faut pas l'oublier, c'est une époque importante pour l'histoire aztèque. Ils seraient partis, selon les chroniques, dès 1168. Alors, partis en 1168 d'Aztlan, ils vont errer jusqu'à la fin pratiquement du XIIIe siècle avant d'atteindre la vallée de Mexico. Ils ont été guidés par leur dieu tribal, celui qu'on connaît déjà, Huitzilopochtli, cette divinité solaire qui leur marquait la route à suivre. Et ces Aztèques, eh bien malheureusement, ils vont être partout rejetés, ils vont connaître des débuts extrêmement pénibles, les débuts qui correspondent à un peuple pauvre, à un peuple de nomades. Alors, au temps de la splendeur de Mexico-Tenochtitlan, on chantait systématiquement ses origines extrêmement modestes, on les chantait avec beaucoup de ferveur par ce Melahuicuicatl qu'on va maintenant découvrir. Je vous servirai de guide, je vous montrerai le chemin. Alors, les Aztèques ont commencé de venir ici. Ils existent, ils sont peints, on les nomme en langue aztèque, les endroits par où ils sont venus, ils sont passés, les Mexicas. Et quand les Mexicas sont venus, certes, ils n'avaient pas de voix, ils ont été les derniers. Quand ils venaient, quand ils suivaient leur chemin, ils n'étaient plus reçus nulle part, partout ils étaient rejetés. Personne ne connaissait leur visage, partout on leur disait « Qui êtes-vous? D'où venez-vous » Ainsi, nulle part ils ne purent s'établir, simplement ils étaient chassés, de tous côtés ils étaient persécutés. Ils sont passés par Coatepec, ils sont passés par Toyan, ils sont passés par Ixpuchco, ils sont passés par Ecatepec et ensuite à Chicuitepitlan. Et puis à Chapultepec où beaucoup de monde vint s'établir et déjà il existait une seigneurie à Azcapotzalco, à Coatlichan, à Culhuacan, mais Mexico n'existait pas encore. Il y avait encore des oseraies, des roselières, là où maintenant il y a Mexico.
Mexico, valle de Anahuac, de la tuna y del nopal, testigo de mil batallas, de la azteca y del chontal, cuna de una raza fuerte, que por suerte tengo yo, tierra pedazo de gloria, dueña de una historia hermosa y cabal. Soy de la sangre mexica que el guerrero indica la Tenochtitlán. Cuando fuiste dominada por aquel conquistador y el valiente que empuñaba el escudo protector, el tecutli guerrillero, apresado con pudor, frente al teocalli sagrado, con ojos punzantes como águila real, dijo, mejor dadme muerte, cumplir mi mandato con ese puñal. Esta es la historia de un himno que lleva por signo el ser inmortal.
Le texte qu'on vient d'entendre était récupéré par Sahagún. Et le suivant, eh bien, s'intéresse beaucoup plus à l'apparition de cet aigle sur le Nopal, en plein milieu de cette lagune de Mexico-Tenochtitlan. Ce texte est tiré de la chronique Mexicayotl. Ils sont alors arrivés là où se dresse le figuier de Barbarie. Près des pierres, ils ont vu avec joie comment un aigle se dressait sur ce figuier de Barbarie. Et là, il mangeait quelque chose. Il le déchirait en mangeant. Quand l'aigle vit les Aztèques, il inclina la tête. De loin, ils ont regardé l'aigle, son nid aux plumes précieuses, variées, des plumes d'oiseaux bleus, des plumes d'oiseaux rouges, toutes des plumes précieuses, et là aussi étaient éparpillées des têtes d'oiseaux divers, des cerfs et des os d'oiseaux.
Imperio glorioso del rey Acamapistli, de este valle hermoso de Ocracia de Tenor, reino poderoso, ciudad engalanada, brazo victorioso, mandato de su Dios.
Oh, Aztlán, de origen y nación,
Ainsi se termine cette première partie de la cassette, cette évocation à la fois poétique mais aussi musicale. Nous venons d'entendre ce dernier chant qui parlait d'Aztlan, de ce peuple d'Aztlan et des grands empereurs aztèques qui ont suivi la sédentarisation à Mexico, Tenochtitlan. Auparavant, nous avons entendu un texte sur le danseur aztèque, un autre sur Malintzin, la compagne de Cortés, une symphonie aztèque avec les instruments repris comme ceux du XVIe siècle. Ensuite, on a chanté aussi Mexico et la vallée de l'Anahuac, cette grande vallée où est né Mexico Tenochtitlan, et on a pu ainsi parler aussi du Nopal et de ce mythe du départ de la fondation de Mexico Tenochtitlan. Nous avons terminé d'étudier les sagas, ces épopées mythologiques, l'histoire. Les Mexicas sont maintenant installés à Mexico et leur première occupation, la plus importante, ce sera la guerre, bien sûr. C'est la raison pour laquelle on va s'intéresser aux chants de guerre, aux chants d'aigle, les Yaocuicatl. Ces chants de guerre qui représentaient peut-être la forme la plus significative de la poésie épique, de ce côté héroïque d'un peuple qui mettait toujours la guerre en premier plan. Alors bon, il y aura tout un tas de choses ésotériques qui vont transparaître dans cette poésie. On va retrouver tout un fatras liturgique qui entoure ces Yaocuicatl. Mais ce qu'on va remarquer aussi, c'est que cette guerre, c'est d'abord un devoir sacré. Elle était redevable aux dieux depuis l'origine du monde, depuis la création de ce quatrième soleil. Alors il y a tout un cérémonial traditionnel, il faut bien comprendre que ces conflits étaient ordonnés d'une façon très précise, il fallait se livrer à ce qu'on appelait la Xochiaoyotl, c'est-à-dire la guerre fleurie, il s'agissait de capturer vivants des ennemis pour les sacrifier plus tard. Bon, la victoire, bien sûr, c'était aussi un moyen de conquête politique, mais ce n'était pas vraiment le but final. La seule chose qui arrivait à la fin d'une guerre, c'est que symboliquement, on incendiait le temple principal de l'adversaire, et ensuite il y avait des négociations avec le vaincu, et il fallait que ce vaincu verse un tribut au vainqueur, bien sûr. Alors cette guerre sacrée, cette guerre faite par les Mexicas, était traité de manière poétique. C'est une branche importante qui célèbre en même temps les grands dieux de cette guerre. Mais ce qui est curieux, c'est qu'on voit de temps en temps des sortes de confidences. On sent que malgré ce carcan religieux, il y a des plaintes lyriques, c'est vrai, mais qu'on arrive à sentir un peu cette angoisse du combattant, cette tristesse de la guerre. Et ça, c'est un élément qu'on ne pense peut-être pas trouver facilement dans la poésie aztèque. Dressez donc vos tambours, prince. Malgré tout, jouissez ici devant l'auteur de la vie. Les sanglots s'écoulent, les larmes ruissellent là où sont les tambours, devant l'auteur de la vie. Comme l'aigle, il s'agite, comme le jaguar, il se démène, le prince Montecusoma, quand il décore ses hommes. Allez donc chercher l'expérience sur le champ de guerre. Aux aigles d'hiver, aux jaguars d'hiver, aux princes d'hiver, Montecusoma, le roi, porte le réconfort quand il décore les hommes. Allez donc chercher l'expérience sur le champ de guerre. Elle a redressé le cœur des hommes, la fleur d'argile et la fleur de plume. Elle a aliéné le cœur des hommes, la fleur de l'aigle. Voici pourquoi sont partis, hélas, sont partis les princes Chichimèques, le roi Montecusoma, Chahuacueye, Cuellantzin, ceux qui ont voulu ressembler aux colibris. En vérité, vous n'avez guère vu Xoltemoctzin. En vérité, vous n'avez pas subi les épreuves du roi Kinansin. Bientôt, elle réduira sa fougue, elle fanera la fleur de bouclier. Elle ne vous est que prêtée, prince. Personne ne la verra s'éteindre, car nous devrons partir au royaume des morts. Il faudra s'écarter pour laisser la place aux autres sur la terre. Elle ne vous est que prêtée, prince. Voici pourquoi tu pleures, ô toi, Chimalpopoca, et toi, Akolminsin, et toi, Titsawaktsin. Dressez donc vos tambours, qu'ils réjouissent le monde, que notre chagrin parte. Où est donc le chanteur? Que notre tambour résonne fortement, qu'ils réjouissent le monde, que notre chagrin parte. Comme un nénuphar du vent, le bouclier tourne. Comme de la fumée, la poussière monte. Le sifflet des mains résonne ici, à Mexico Tenochtitlan. C'est la maison du bouclier, la maison du combat. Voici l'ordre des aigles, la demeure de l'ordre des jaguars. Il y règne la guerre, il siffle pour le combat. Voici les fleurs du bouclier fumant. Oh non, en vérité, elles ne devront cesser, elles ne devront s'éteindre. Pleure donc pour cela, ô toi, Chichimec, pleure pour cela, toi, Tlaitotskin. Elles nous réjouissent bien, les fleurs de l'auteur de la vie. Puisque tu les tourmentes, le cœur des princes souffre, que peuvent-ils donc faire? La fleur de la guerre ouvre sa corolle, la fleur de bouclier se trouve dans ma main. Les fleurs me réjouissent, les fleurs du jaguar et les fleurs de l'aigle. Voici qu'ils les tourmentent, le cœur des princes souffre. Que peuvent-ils donc faire? De la façon dont nous souffrons, mourons de même. Si seulement c'était déjà arrivé. Qu'ils nous le disent, nos amis. Qu'ils nous réprimandent, les aigles et les jaguars. Que faire? Fais-la! Que faire? Prends-la. C'est la fleur de l'auteur de la vie. On la prend là où sont les angoisses, là où se trouve la gloire, près de la gloire, sur le champ de bataille. Ce dernier texte, on a pu remarquer à quel point ces gens avaient une foi extraordinaire, cette foi dans leur mission qui les attendait. Mais on sent déjà un peu, par certaines phrases, ces doutes sur ces joies qui est attachées à leur mission, enfin cet accomplissement de la mission. On sent aussi que, mon Dieu, ils apprécient ces fleurs de l'aigle, mais ils ont aussi peur un peu des souffrances de la guerre. Ils pensent à cette gloire, ils pensent à ce bonheur mystique. mais en même temps, il y a cette angoisse, cette interrogation sur la fin de leur existence, sur, après tout, sur leur vie qui est délibérément sacrifiée par la société aztèque. Alors, on peut encore ressentir cette mélancolie guerrière comme... On peut le lire dans le petit texte que je vous ai mis en bas de la page 260. Vous aurez le temps de le lire sur cette musique de tambour. N'oubliez pas également de tourner la page, vous avez la suite de ce texte, une deuxième partie, à la page 261. Après ces thèmes guerriers, assez sérieux malgré tout, nous allons passer à la poésie pure, celle qu'on appelle la fleur qui enivre, c'est le thème du bonheur d'être poète, cette alchimie verbale qui a fasciné les Mexicains, pleine de variations, cette poésie, la fleur qui enivre, qui est vraiment présentée comme le suprême bonheur. Tout peut découler de cette poésie. On peut parler des amitiés, des plaisirs, de la joie d'exister. Elle permet vraiment de s'accomplir, de devenir homme, celui qui crée lui-même, comme le disaient les Aztèques. Alors, on va s'intéresser à très peu de textes. On va s'intéresser à très peu de poètes. Il y a des gens fantastiques. Je pense à Tecayehuatzin, il y a Temilotzin, qui ont été des auteurs vraiment remarquables. Mais nous allons d'abord toucher l'auteur le plus connu du Mexique ancien. Je pense à Nezahualcóyotl. À la page 262, je vous ai mis ce chant de printemps de Nezahualcóyotl. Mais voyons d'abord qui était ce personnage.
Είναι κουάτλι κανείς πάντη και σε κουάλε τιάς κατσίντλι κανό σεν τέτλανε κύλις νι κουάλ καγουανείς που κατσίντλι. Μάνι γεν άσκα μάνι γεν μόστλα είναι σπό κατμό να μίκτης νι κουάλ τλάλια νο τλατλάτης μισό τύλι τλεν σι πάντη μόνε μίτης. Σε παπάνι σε πατλάνια μου ματσίστηκαν ειν τλάμι Η κανόν τα νεκουλό λατσίν κλίμαν οξύ κοινων οτλάνι. Νο κοντλάλια νον αγουά τλάτων οι τεσκόπαν σε κι αγουέ γουεντότων ασκάν και ματιάτς κατσιτσίν τι τι κουαλ σε παν κουάκαν γουέ σολόν τότων. Είναι τσ πω κατμόν αμίκτη οι καϊσέν τέτλαν εκείλης. Είναι νάμτσιν ο κυλχουί και αμονότλαν ανανκύλης. Είναι μονάντσιν ο κυλχουί και να κασέκουα λε μαλάκατλ. Νος ηξάλλο κεν τη κήτης ασκαγιώτικ νε κυντλάκατλ. Αμον ηγουάλα ο νικητήκο, ον ηγουάλα ο νητεσήκο, ον ηκνέκι μόκον έτσι να ον ηκνά γουατεκήκο.
Nezahualcóyotl. C'était un roi. Il a été roi de Texcoco. Situons Texcoco. Bien sûr, c'est une de ces villes de la Nahuac qui se trouve du côté est. C'est à peu près où atterrissent aujourd'hui les avions dans cette vallée de Mexico. Le lac de Texcoco recouvrait toute la partie est. Eh bien, il est né au début du XVe siècle, plus exactement en 1402, et il va mourir en 1472. Il a donc vécu 70 ans. Et il a réussi à régner seulement à partir de 1431. Depuis sa naissance, depuis 1402, il a eu beaucoup de problèmes. Il a dû s'enfuir de sa capitale. Il y avait des problèmes entre Azcapotzalco, entre Mexico, Tenochtitlan et Texcoco. Il y a eu ensuite cette fameuse alliance. Il y a eu de nombreuses guerres à cette époque. C'était le début de l'hégémonie aztèque seulement. Et alors, lorsqu'il va se réinstaller en 1531 sur son trône, il va révolutionner non seulement Texcoco, mais toute la vallée. Tout le système aztèque dépend un peu de Nezahualcóyotl.
Quetzal Coyotl, surtout par son côté législatif. Oui, c'était un législateur extraordinaire. Il a révisé toutes les lois qui existaient auparavant. Texcoco va s'imposer comme la capitale culturelle de la vallée. Même à l'époque de Cortés, Texcoco était vraiment encore considéré comme le lieu de naissance de la culture. Il a été philosophe, et c'est une des raisons aussi qui nous oblige à l'étudier, puisque par cette poésie qu'il a fait découvrir, il a chaque fois glissé des idées philosophiques tout à fait nouvelles. C'est certainement en tout cas le plus grand nom de la culture nahuatl, c'est celui que j'appellerais l'Homère du Mexique. Il a su allier tous les courants qu'il avait précédés. D'abord, ce courant de pensée chichimèque qui était venu du Nord. Il a su allier ceci aux traditions beaucoup plus anciennes, ces traditions toltèques. Et puis enfin, réviser tout ceci d'après les mélanges, les brassages qu'il y avait eu dans la Nahuac. Alors, ce qui est extraordinaire chez lui, c'est qu'il a réussi à spiritualiser tout ce qui était déjà existant. Enfin, il a vraiment créé une philosophie tout à fait méconnue. À la fin de sa vie, il va même devenir le chantre de ce que moi j'appellerais carrément du monothéisme. Il me fait penser à Akhenaton pour l'Égypte. Netzahualcoyotl avait exprimé ce qu'on appelle le concept de Tlokenahuake. Qu'est-ce que le Tlokenahuake? Eh bien, si on traduit ce terme nahuatl, ça veut dire maître de la proximité, invisible comme la nuit, impalpable comme le vent. Eh bien ça, c'est une notion religieuse qu'il plaçait en dessus de tout, en dessus des dieux qui existaient dans le panthéon précolombien. Il pensait qu'il y avait un maître de la proximité, qu'il y avait un entendement invisible, quelque chose d'invisible comme la nuit, quelque chose qu'on ne pouvait pas palper, qui était en dessus de tout, il disait impalpable comme le vent. Donc, il avait créé une sorte de certitude, quelque chose de supérieur à tout, il pensait à la paix dans l'au-delà, il pensait aussi transformer la condition humaine, cette condition aztèque qui était difficile, nous l'avons vu en étudiant les poèmes guerriers. Donc, par là, Netzahualcoyotl, c'est vraiment le créateur, le porte-parole du plus grand des courants de pensée qui soit né en terre nahuatl. En tout cas, le plus grand courant avant la conquête espagnole, bien sûr. Et je crois qu'il a été à l'opposé des autres poètes de son époque, puisque lui ne s'intéressait pas tellement au chant de l'aigle, au chant des guerriers. Non, il s'intéressait moins au peuple du soleil. Lui était beaucoup plus raffiné. C'était le poète créateur par excellence, le philosophe, le grand philosophe. Alors, je vous laisse un peu lire ce chant de printemps de Netzahualcoyotl à la page 262 et ensuite nous étudierons certains autres textes de Netzahualcoyotl. Au départ, la perception douloureuse du temps et de son œuvre, je le dis, moi, Netzahualcoyotl. Alors, vivons-nous vraiment sur la terre? Non, nous ne sommes pas pour toujours sur la terre, seul un petit instant ici. Même le jade se brise, même l'or se fend, même la plume de Quetzal se déchire. Non, nous ne sommes pas pour toujours sur la terre, seul un petit instant ici. Thank you. voit à quel point Netzahualcoyotl était obsédé par cette fuite du temps, par cette invasion des ténèbres. Et ce poète extraordinaire va arriver chaque fois qu'il le veut à travers ce genre particulier qu'est ce qu'on appelle l'Iknokuikatl, c'est-à-dire ce genre élégiaque, ces poèmes qui travaillent l'immortalité, si l'on peut dire. Il va se hisser jusqu'à cette victoire sur la condition humaine. La poésie, in Xochitl, in Cuicatl, la fleur et le chant, ça pouvait aussi assurer à l'homme l'éternité. Et c'est surtout à la réflexion, cette réflexion philosophique, comme aussi à cette intuition lyrique qu'avait Netzahualcoyotl, que l'on peut rechercher, qu'on peut faire cette conquête, la conquête d'une sérénité qui était bien difficile chez ces précolombiens, chez ces aztèques. Mes fleurs ne faneront pas, mes chants ne cesseront pas. Moi, le poète, je les élève. Ils se répandent, ils s'éparpillent. Les fleurs peuvent jaunir, elles sont emmenées dans la maison de l'or. Fleurs de corbeau, fleurs de tulipe, tu les répands, tu les fais tomber au milieu des fleurs. Ah oui, je suis heureux, moi, le prince Netzahualcoyotl. Réjouissez-vous avec les fleurs qui grisent, celles qui sont dans nos mains. Revêtez sans tarder les colliers de fleurs, nos fleurs filles de pluie, nos fleurs odorantes ouvrent leurs corolles. Là-bas vit l'oiseau, il bavarde, il chante, il vient connaître la demeure du Dieu. Il n'y a que nos fleurs pour nous réjouir, il n'y a que nos chants pour tuer votre angoisse. Mes princes, grâce à cela, vos peines s'estompent. Elles sont l'invention de qui donne la vie. Il les a fait descendre, lui qui s'invente lui-même. Fleur de plaisir, grâce à qui vos peines s'estompent. La fleur et le chant, assurance d'éternité. C'est vraiment la suite logique de Netzahualcoyotl. C'est un contemporain de Netzahualcoyotl qui l'a écrit. Il a un nom un peu compliqué, Ayokwan Quetzalcin. Quetzalcin, eh bien, il offre peut-être l'exemple le plus remarquable du poète Nahuatl qui cherche à apporter une réponse claire, une réponse, je dirais, optimiste à toutes les questions, à ces questions angoissées que l'on a déjà un peu senties, surtout ces questions qui ressortent dans les poèmes qu'on appelle les Iknokuikatl, qu'on chante encore aujourd'hui sur les hauts plateaux, ces poèmes négatifs, ces poèmes pessimistes. Mais pour vaincre à la fois le temps, pour arriver le plus près possible de l'auteur de la vie, il n'y a que les poèmes, il n'y a que la fleur, il n'y a que le chant que l'on peut considérer comme utile pour arriver si haut. C'est vraiment l'issue de ce qu'avait déjà découvert Netzahualcoyotl, c'est la confirmation, c'est le développement de ce qu'avait trouvé Netzahualcoyotl. Je vous laisse de nouveau lire ce poème qui est peut-être un des plus beaux qu'on puisse trouver par l'optimisme et l'idée d'éternité, justement, cette possibilité qu'a le poète d'inventer quelque chose et de rompre le chaos, l'assurance de brisure qu'avait toujours l'Aztèque. Il n'y a que le poème, il n'y a que les fleurs, il n'y a que le chant qui pourront peut-être survivre à toutes les catastrophes, y compris à la conquête qui les attendait.
Mano Makoti koti no shokoyo, mano koste kano shokoyotsi, mano koste kano pitelonsi. Makoti koti pitensi, mano koste kapitelonsi, mano koste kano shokoyotsi.
Et tout ceci nous est arrivé. Nous l'avons vu, nous l'avons admiré. Avec ce lamentable, ce triste sort, nous avons connu l'angoisse. Sur les chemins gisent les flèches brisées, les cheveux sont épars, les maisons ont perdu leur toit et leurs murs sont rouges. La vermine grouille dans les rues et les places, et sur les murs, les cervelles ont fait des éclaboussures. Les eaux sont rouges, elles sont comme teintes, et quand nous les avons bues, on croyait boire de l'eau de salpêtre. Nous avons frappé alors les murs de briques, et notre héritage n'était plus qu'un tissu de trous. Les boucliers ont pu le protéger, mais sa solitude n'a pas été tenue par les boucliers. Nous avons mangé des bois colorés, nous avons mâché du chien-dent au salpêtre, l'argile des briques, des lézards, des souris, la poussière et la vermine. Nous avons dévoré la viande à peine posée sur le feu. Quand la viande était cuite, il l'arrachait de là. Dans le feu même, il la mangeait. On fixa notre prix. Un prix pour le jeune, pour le prêtre, pour l'enfant et la jeune fille. Assez! D'un pauvre, le prix atteignait à peine 2 poignées de maïs. Il n'était que de 10 galettes de mouche. Notre prix n'était que de 20 galettes de chien d'un au salpêtre. L'or, l'émeraude, les manteaux brodés, les plumes de Quetzal, tout ce qui est précieux ne fut compté pour rien.
Pampani mis la sotla, pampani mis la sotla, y canochi no yo.
Les sanglots se répandent, les larmes ruissellent, là-bas, à Tlatelolco. Les Mexicains sont enfin partis sur l'eau. Ils ressemblent à des femmes. La fuite est générale. Où allons-nous? Oh, mes amis, donc cela est vrai? La fumée se lève, le brouillard est en train de s'étendre. Pleurez, mes amis. Sachez bien qu'avec ces événements, nous avons perdu la nation mexicaine. L'eau est devenue aigre, la nourriture est devenue aigre. Voici donc ce qu'a fait l'auteur de la vie, Atlatelolco.
Mawistiklato aniye sana mawistikate. Sana mawistikate makaipamo kwala. Makaipamo kwala o wala ke inkokone. O wala ke inkokone ikano chintelpo kame. Ika no chintel pokame santi pakinti moyo tlalia. Yalva iwik plakatka sangwa tlatlanti walaya. Sangwa tlatlanti walaya kaman wetsi sa wili. Kaman wetsi sa wili ipa iwin tonal chintli. Tekine melawak yotiko nashilike. Yoti konashili ke yewa inton al sintli. Tekine melawak yoti konashili ke. Mawistik lato aniye shik. Oti mitson kawili komo bandera. Oti mitzon kawili komu bandera, koshitlatlinkineki. Koshitlatlinkineki, sanse jarra mezkalkineki. Koshitlatlinkineki, Ika mosi iwa mosi garrito. Tekine melawak santi pakinti moyo tlalia. Santi pakinti moyo tlalia. Ika nochi tokniwa. Siwanati makasinestatsakwili nechalitas nomona itlakwali momona tsintamaya tsintamalayol kwitlanes momona siwanati makasinestatsakwili nechalitas nomonta Itlakuali momonta, iskwa potok momonta. Siwanati, makasinestatsakwili, nechalitas nomonta. Itlakuali momonta, iskwa tlapetlanal momonta. Masanika montlami, yewain. Ikati pakinti moyo tlalia.
Et c'est ainsi que parti d'Aztlán, nous avons rejoint Mexico Tenochtitlan en passant par Tula. Nous sommes remontés dans l'histoire, nous avons eu la vision des vaincus, la fin de Mexico Tenochtitlan. Et l'on entend encore aujourd'hui ces longues mélopées chantées en aztèque, chantées en Nahuatl, puisque vous connaissez le terme maintenant, chanté dans l'état de Guerrero, là-bas, du côté d'une ville balnéaire que l'on appelle Acapulco.
Tekine melawak, san patipakinti moyo tlalia, san tipakinti moyo tlalia, kamangwezi singa wili. Mawistik señor Helmer, santi pakinti moyo tlalia, santi pakinti moyo tlalia, kamangwezi sawili. Yalwaiwik plakatka, santi wahtlatlanti, usang wahtlatlanti walaya, tekine melawak, yotonasike intonal sintli. Witsakati, makasinestatsakwili. Makasinestatsakwili, nechalitas nomona. Itlakwali momona, tsintamalayo kwitlanes momona. Witsakati, makasinestatsakwili. Makasinestatsakwili, nechalitas nomonta. Itlakwali momonta. Iskwa potok mu montai.